L'égalité des chances, c'est l'idée selon laquelle, avec un petit coup de pouce, les jeunes qui ne sont pas nés sous la bonne étoile pourraient viser la Lune. Des dispositifs pour forcer cette chance se multiplient. Ils proposent un accompagnement personnalisé, l'ouverture sur un réseau, les outils pour réussir, tout devient à portée de main. Après avoir discuté avec des concernés, j'ai voulu changer d'angle de vue, pour prendre un peu de recul. Il n'y a pas que nous que l'égalité des chances intéresse. Si on prend le temps de faire quelques recherches, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup d'études sur le sujet. Pour ce dernier épisode, j'ai donc invité Ariane Richard-Bossez, qui a fait de l'égalité des chances son objet d'étude. Vous allez voir, elle connaît le sujet sur le bout des doigts. Entre 2016 et 2019, elle a suivi avec des collègues deux dispositifs. Les Cordées de la Réussite et les Parcours d'Excellence de l'Académie Aix-Marseille. Les deux ont fusionné ensuite en 2020. L'idée de ces dispositifs, c'est de créer un suivi de la troisième à la terminale pour des élèves de l'éducation prioritaire. Comme la chercheuse me l'a expliqué, le but ultime, c'est de les encourager à avoir des choix d'orientation et des ambitions plus fortes dans l'enseignement supérieur. Bonjour Ariane Richard-Bossez, vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à Marseille. Et si l'on résume un petit peu votre sujet d'étude, vous avez travaillé principalement sur les inégalités scolaires. Mmh. Et donc ça tourne autour de l'égalité des chances, qui est le sujet de notre série de podcasts. Du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de cette notion qu'est l'égalité des chances ?
Alors, pour donner une définition, je vais être obligée de revenir peut-être un petit peu en arrière, puisqu'il y a un débat entre deux notions, l'égalité des chances d'un côté et la démocratisation scolaire de l'autre, avec l'idée que le côté démocratisation scolaire vise plus une forme d'égalité pour tous, alors que derrière la notion d'égalité des chances, il y a quelque chose de plus individuel, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément l'égalité pour tous, on cherche à ce que pour tel ou tel individu, on maximise ses chances de réussite indépendamment de son origine sociale.
Dans les dispositifs que vous avez étudiés, qui sont les Cordées de la Réussite et les Parcours d'Excellence en particulier, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire le terme d'excellence dans ce cadre ?
Alors, c'est une vaste question. Donc, comme je disais, depuis les années 2000, on voit arriver cette rhétorique de l'excellence en éducation prioritaire. Il y a eu, donc on a parlé des Cordées de la Réussite, mais il y a eu les internats d'excellence, il y a eu les parcours d'excellence, il y a eu tout un tas aussi d'initiatives venant des grandes écoles, en fait, qui se sont intéressées à un type d'élèves auquel jusqu'à présent l'éducation prioritaire s'était peut-être un peu moins intéressée. C'était donc des élèves plutôt en réussite et à se dire que ces élèves-là, leur choix d'orientation, leur destin dans l'enseignement supérieur n'était pas équivalent à ceux de leurs homologues hors éducation prioritaire et qu'il fallait peut-être compenser avec certains dispositifs, leur apporter des activités supplémentaires pour qu'ils puissent réussir comme les autres. Maintenant, si on compare ce qu'on met derrière ce terme « excellence » avec ce qui peut se faire hors de l'éducation prioritaire, on va rapidement voir des formes d'excellence avec à géométrie variable. Et on ne mettra pas la même chose derrière excellence, par exemple, à Sciences Po Paris, et puis dans tel collège des quartiers nord de Marseille, avec des débats récurrents autour de cette question de est-ce que l'excellence est uniquement une excellence académique en termes de réussite scolaire et de très bons résultats par rapport aux autres ? Ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus large ? Et ce qui fait le point commun quand même de tous ces dispositifs d'excellence, c'est le fait de sélectionner une partie des élèves à qui on va donner plus et qui sont déjà des élèves qui sont plutôt dans une situation favorable, on va dire, par rapport au reste des élèves de l'éducation prioritaire. On va leur donner plus avec l'idée que ça va favoriser leur parcours à l'issue du lycée.
Justement, en parlant de sélection, c'est un point sur lequel vous avez beaucoup travaillé aussi. Est-ce que vous avez réussi à voir un petit peu comment cette sélection était faite, était mise en place dans ces dispositifs ?
Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, dans l'échantillon d'établissements sur lequel on a enquêté, il y avait une douzaine d'établissements. Donc, le premier point, c'est que c'est très variable d'un établissement à l'autre. Il y a des établissements qui se refusent à faire une sélection. Ils ne sont pas très nombreux, mais du coup, ils considèrent que c'est l'ensemble de leurs élèves de troisième, par exemple, qui font partie de ces parcours d'excellence. Et puis ensuite, selon les établissements, ils vont faire il va y avoir un degré de sélectivité plus ou moins grand. Et les critères sur lesquels les élèves vont être sélectionnés vont aussi être différents. Certains établissements se basent uniquement sur le volontariat, c'est-à-dire qu'ils vont présenter ce que sont les parcours d'excellence et s'inscrivent les élèves qui le souhaitent. Alors que d'autres établissements vont au contraire avoir une démarche beaucoup plus volontariste et aller eux-mêmes chercher des élèves qui, parce qu'ils ont tel ou tel profil, soit sur le plan de leur réussite scolaire, soit parce qu'ils veulent favoriser, par exemple, les filles au profit des garçons ou des choses comme ça, vont être sélectionnés par les équipes éducatives elles-mêmes.
Ces élèves qui sont sélectionnés, s'ils sont sélectionnés, c'est aussi parce qu'il y a des freins qui se présentent à eux à un moment ou à un autre de leur parcours. Est-ce que vous avez réussi à identifier un petit peu les freins qui pouvaient être justement...
Alors, donc, nous, on avait particulièrement questionné tout ce qui tourne autour de la construction des choix d'orientation chez ces élèves, avec l'idée qui était souvent présente, c'est il faut hausser l'ambition de ces élèves de l'éducation prioritaire qui sont des bons élèves et qui n'osent pas choisir telle ou telle orientation après le bac, par exemple. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est en fait, c'était pas tant que ces élèves n'avaient pas une ambition forte, mais plutôt qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de cette ambition. C'est-à-dire ils ne connaissaient pas forcément les voies pour aller vers les ambitions qu'ils avaient, ou bien l'accompagnement qui leur était proposé était un accompagnement qui s'intéressait à des compétences plutôt transversales, l'assurance, la capacité à prendre la parole en public, etc., mais qui ne travaillaient pas non plus le cœur par exemple, des apprentissages et donc d'un niveau scolaire suffisant pour accéder à tel ou tel choix d'orientation. Et donc, plutôt que de chercher à hausser leurs ambitions, ce qui nous semble, c'est que c'est plutôt accompagner cette ambition pour qu'elle puisse devenir effective et ne reste pas simplement une ambition vers laquelle on ne sait pas comment aller.
Le fait que ces élèves soient suivis par ces dispositifs, quel effet ça a sur eux après ? Est-ce que c'est forcément concluant dans le bon sens ou pas ?
Alors, cette question de l'évaluation, elle est très complexe parce que, d'abord, c'est des dispositifs qui sont rarement évalués pour plusieurs raisons. D'abord, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une grande variabilité de mise en œuvre, donc c'est difficile de donner l'effet global que peut avoir un dispositif comme les parcours d'excellence, étant donné que ça prend des formes très différentes d'un établissement à l'autre. En plus, la question de ces effets, elle se joue sur du long terme et c'est souvent des visions assez ponctuelles qu'on peut avoir sur ces dispositifs. Mais malgré ça, on peut quand même avancer quelques résultats. Nous, on a questionné un certain nombre d'élèves qui participaient au parcours d'excellence. La première chose qui ressort, c'est qu'ils étaient tous tout à fait contents, ravis de participer à ces activités-là, que ça leur donne un sentiment de distinction par rapport aux autres élèves, qui les valorisent. Ça leur permet aussi de se retrouver avec des pairs avec qui ils partagent des centres d'intérêt, le plaisir d'apprendre, des choses comme ça. Et puis, quand on les interroge sur ce que ça leur apporte, ce qui sort en premier lieu, c'est un apport de culture générale. Puis c'est aussi la rencontre avec, par exemple, des tuteurs étudiants, des choses comme ça. Ensuite, ça leur apporte aussi, donc sur les questions d'orientation qui sont souvent travaillées au sein des parcours d'excellence, ça leur ouvre la réflexion sur d'autres parcours auxquels ils n'avaient pas forcément pensé auparavant. Par contre, sur le plan beaucoup plus strictement scolaire, ils reconnaissent eux-mêmes que ça ne change pas forcément grand-chose à leurs apprentissages en tant que tels. Sur l'évaluation, je voulais quand même dire que quand on regarde d'un point de vue très global, par exemple les études qui regardent la composition des grandes écoles et de leur public, on voit très peu d'évolutions en fin de compte, enfin vraiment des évolutions à la marge. Donc en tout cas, du point de vue d'une excellence qui serait le fait d'accéder à des écoles renommées, par exemple, ça change peu de choses.
Du coup, vous avez dit plusieurs fois depuis le début de cet entretien que c'est depuis le début des années 2000 que ces dispositifs sont mis en place et se développent. Est-ce que c'est seulement de l'affichage ou est-ce que c'est une réelle volonté d'accompagner ces élèves-là et de les ouvrir à des orientations auxquelles ils n'auraient pas pensé ?
En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit bien que en profondeur, ça change pas fondamentalement la composition, par exemple, des publics qui ont accès aux grandes écoles. Maintenant, il faut reconnaître aussi que pour les élèves qui participent à ces dispositifs, ça apporte des nouvelles ouvertures parce que c'est des nouvelles rencontres avec des activités qui sont pas celles auxquelles ont accès l'ensemble des élèves des établissements d'éducation prioritaire. Donc, pour ces élèves-là, mais qui sont une minorité, il y a une ouverture sur d'autres choses, même si on ne voit pas non plus d'effets transcendants qui romperaient totalement avec les rapports sociaux qu'on connaît à l'école.
Au-delà des limites que vous venez d'énoncer, est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez pu identifier et qui vous semblent assez importantes ?
Mais disons que la plus grosse limite, c'est ce côté fragmentation en fait, de la population des élèves de l'éducation prioritaire entre ceux à qui on va proposer ou qui vont se saisir de ces dispositifs et puis ceux à qui, de manière implicite, on dit ben, « c'est pas pour vous » ou « vous pouvez pas y accéder ». Et donc, du coup, ça fragmente cette population, ça donne une valeur symbolique aux uns et aux autres, et puis ça donne aussi accès à des activités différentes aux uns et aux autres. Et c'est un autre chercheur, Philippe Pernoud, qui dit que voilà, l'excellence n'a de valeur que si elle n'est pas partagée par tous. Et donc, on retombe sur cette question de départ qui était la différence entre démocratisation scolaire et égalité des chances, avec, c'est proposé pour quelques-uns qui ont déjà un peu plus que les autres d'aller encore plus loin et abandonner l'idée qu'on peut proposer une plus grande égalité pour tous, en acceptant que pour certains, on abandonne cet objectif d'égalité quand on le propose à une part plus réduite.
Merci beaucoup, Ariane Richard-Bossès, d'être venue au micro de Sans Piston, partager votre expertise sur la question de l'égalité des chances. Et à bientôt, j'espère.
Merci.
Cette série vous a été proposée par Perrine Bontemps pour Mars Actu. Merci à Mohamed Ali Amaidi, Azir Saïd Mohamed Sheikh et Zainab Alamidi de s'être prêté au jeu et de m'avoir consacré un peu de leur temps. Merci aussi à Ariane Richard-Bossès de s'être déplacée jusqu'à notre studio d'enregistrement et de nous avoir éclairé sur le sujet. La musique que vous avez entendue tout au long de ces épisodes est signée Ici Thomas. Vous pouvez aller sur son SoundCloud pour écouter ses nombreuses créations. Et enfin, merci à toute l'équipe de Mars Actu pour le soutien tout au long du projet. Si vous avez aimé la série et que vous souhaitez soutenir Mars Actu, vous pouvez vous abonner au journal, mais aussi courir écouter notre podcast Le Bocal de Mars Actu, présenté par Violette Artaud tous les 15 jours et disponible sur toutes les plateformes. À bientôt !